Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nightmare Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Cet ouvrage intitulé « Jeanne d'Arc, le procès de Rouen, 21 février 431, 30 mai 431 » s'inscrit dans la veine des livres d'histoire centrés sur les sources primaires et l'art lecture. Critique d'un événement fondateur. Publié sous la signature d'Olivier Serce, il porte sur le procès de Jeanne d'Arc à Rouen, c'est-à-dire la séquence judiciaire qui conduit, en 1431, à sa condamnation puis à son exécution. Le sujet relève à la fois de l'histoire médiévale, de l'histoire religieuse et de l'histoire du droit, car l'affaire met en jeu les pratiques inquisitoriales, les rapports entre pouvoir politique et autorité ecclésiastique, ainsi que la construction du dossier d'accusation. Le livre s'adresse donc à un lecteur qui cherche moins un récit romanesque qu'une immersion dans les minutes du procès, avec l'ambition de faire entendre la parole de Jeanne à travers les documents conservés et de replacer l'affaire dans sa logique institutionnelle et historique. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le procès de Rouen comme moment décisif de l'histoire de Jeanne d'Arc. Le cœur du livre est le procès tenu à Rouen entre février et mai 1431, épisode décisif qui transforme Jeanne d'Arc de figure militaire et politique en accusée religieuse. Cette période ne constitue pas seulement un procès parmi d'autres dans la guerre de Cent Ans, elle concentre des enjeux de légitimité, puisque condamner Jeanne revient aussi à délégitimer la mission qu'elle attribue à Dieu et, indirectement, l'action de Charles VII. L'intérêt du livre est de faire apparaître comment le déroulement judiciaire produit un basculement historique. Le procès n'est pas présenté comme une simple formalité destinée à confirmer une conclusion écrite d'avance, mais comme une scène où se déploient des questions fondamentales sur la vérité, l'obéissance et l'autorité. En suivant cette chronologie resserrée, l'ouvrage met en évidence la vitesse avec laquelle les procédures aboutissent à une condamnation capitale, tout en donnant au lecteur les moyens de comprendre pourquoi cet enchaînement a marqué durablement la mémoire française et chrétienne. Deuxièmement, une lecture fondée sur les minutes authentiques et les actes du dossier, elle, un des traits les plus importants du livre, est son ancrage dans les minutes authentiques du procès. En latin et en français, complété par les éléments du procès de réhabilitation, cette méthode change profondément la manière d'aborder Jeanne d'Arc, car elle déplace le regard du mythe vers la matérialité des sources. Le lecteur ne reçoit pas seulement une synthèse historique, il accède à une restitution structurée du dossier judiciaire, où chaque intervention prend sens dans une progression de questions, de réponses et de confrontations. Ce choix documentaire est essentiel, parce que le procès de Jeanne est souvent évoqué de manière symbolique, alors qu'il constitue aussi une archive exceptionnelle du Xe siècle. En travaillant à partir des textes eux-mêmes, le livre permet de mesurer la précision de l'accusation, les formulations théologiques mobilisées et la façon dont les témoins construisent ou contestent les faits. L'enjeu n'est donc pas seulement biographique. Il est aussi philologique et historique, puisque l'ouvrage propose une lecture informée d'un corpus complexe, destiné à être entendu dans sa langue judiciaire originelle. Troisièmement, la défense de Jeanne face aux pièges théologiques et juridiques. Le livre met en avant la capacité de Jeanne d'Arc à répondre aux juges avec une étonnante sûreté dans un cadre qui lui est pourtant défavorable. Ce point est central, car le procès repose sur des questions de foi, de vision, d'obéissance à l'Église et de discernement spirituel, autant de thèmes difficiles à manier pour une jeune femme de 19 ans placée devant des théologiens et des juristes aguerris. L'intérêt de l'ouvrage est de montrer que Jeanne n'est pas réduite au silence par son ignorance supposée. Au contraire, elle parvient à opposer une parole ferme, souvent brève, parfois pleine d'esprit, au piège de ses interrogateurs. Cette dimension éclaire le procès comme une confrontation intellectuelle, autant qu'idéologique. Le livre suggère ainsi que la force de Jeanne ne tient pas seulement à son courage physique ou militaire, mais à une forme de lucidité dans l'échange verbal. Pour le lecteur, cela permet de comprendre que la condamnation ne repose pas uniquement sur une supériorité doctrinale des juges, mais aussi sur une lutte d'interprétation où la parole de l'accusé conserve une puissance singulière. Quatrièmement, le fonctionnement d'un procès médiéval et ses enjeux d'injustice procédurale, au-delà du cas Jeanne d'Arc, l'ouvrage éclaire le fonctionnement d'un procès médiéval des inspirations inquisitoriales. Cette dimension est importante, car elle permet de comprendre comment la justice du XVe siècle s'organise autour de procédures, de consultations, d'expertise théologique et d'une forte asymétrie entre l'accusé et les autorités qui la jugent. Le livre met en perspective les règles du temps sans les confondre avec les garanties contemporaines, ce qui évite l'anachronisme tout en laissant apparaître certains points problématiques. L'intérêt analytique réside dans cette tension entre une procédure qui veut paraître rigoureuse et un contexte où la défense dispose de marges très limitées. Le procès devient alors un révélateur des rapports de force institutionnelle, de la place de la prison, de l'usage des questionnaires et du poids des autorités consultées. Cette lecture offre au lecteur une compréhension du droit médiéval. La procédure n'y est pas neutre, mais elle produit aussi ses propres formes de légitimation. Le livre permet ainsi de saisir pourquoi l'affaire Jeanne d'Arc a nourri, jusqu'à aujourd'hui, une réflexion sur la justice, la régularité des débats et la possibilité d'un jugement équitable. En dernier lieu, une reconstitution qui relie histoire religieuse, politique et mémoire nationale. L'un des apports majeurs du livre est de relier le procès de Rouen à plusieurs couches de sens qui dépassent l'épisode judiciaire lui-même. D'un côté, l'affaire est un procès d'hérésie, donc un moment de tension religieuse où la vérité des voix de Jeanne est examinée à l'aune de la doctrine. De l'autre, elle est aussi un acte politique, car la condamnation sert les intérêts du pouvoir anglais et de ses alliés dans un contexte de guerre. Enfin, le livre participe à la mémoire nationale de Jeanne d'Arc, figure devenue au fil des siècles un symbole de résistance, de pureté et de fidélité. Cette triple dimension donne à l'ouvrage sa portée particulière. Il ne s'agit pas seulement d'expliquer un verdict, mais de montrer comment un dossier judiciaire devient un texte fondateur pour l'imaginaire historique français. Le lecteur y trouve donc une lecture utile à la fois pour l'histoire religieuse, pour l'histoire politique et pour l'histoire culturelle. C'est précisément cette articulation entre documents, conflits institutionnels et mémoire collective qui distingue ce livre de simple biographie de Jeanne d'Arc. En conclusion, ce livre conviendra surtout aux lecteurs intéressés par Jeanne d'Arc, par l'histoire médiévale et par l'examen direct des sources judiciaires. Il sera utile aux étudiants, aux enseignants, aux passionnés d'histoire religieuse et à tous ceux qui souhaitent comprendre le procès de Rouen, autrement que comme un simple épisode dramatique. Son principal intérêt pratique est de rendre lisible un matériau historique souvent fragmentaire ou intimidant. En proposant une approche guidée des minutes du procès et de leur portée, son intérêt intellectuel tient à sa capacité à montrer comment un document judiciaire peut devenir un lieu de mémoire, de conflit d'interprétation et de réflexion sur la justice. Par rapport à d'autres livres consacrés à Jeanne d'Arc, celui-ci se distingue par son ancrage documentaire et par son attention au procès lui-même, plutôt qu'à la seule légende de la pucelle. Il permet de comprendre à la fois la logique des juges, la force de la parole de Jeanne et la manière dont une affaire de 1431 continue d'éclairer les rapports entre histoire, foi et pouvoir. Si vous souhaitez soutenir Olivier Serce, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt!